Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le VIH et le SIDA.
Avec l'appui d'autres participants, nous chercherons à répondre d'un point de vue biblique à quelques questions fréquemment posées par ceux et celles qui se trouvent confrontés au SIDA. Il faut rappeler que les interviews originaux avec ces participants étaient en anglais. Leurs interventions ont été traduites et leurs propos redits, joués par les francophones.
La dernière fois, nous avons commencé à réfléchir sur les raisons pour lesquelles l'Église devrait répondre au VIH et au SIDA. Dans cette émission, nous allons continuer sur cette lancée.
Peter Ocalet travaille pour MAP International et il a déjà une certaine expérience sur ce que doit être l'accompagnement des églises souhaitant répondre au problème du SIDA. Il va nous expliquer les différentes étapes que les églises peuvent suivre lorsqu'elles sont confrontées à cette question.
La première étape est celle de l'opposition et de la présence d'attitudes de jugement. Il faut rapidement changer de mentalité, car si nous stigmatisons les gens touchés par le VIH et le SIDA, ces derniers se cacheront et n'auront pas envie de venir vers nous pour nous faire part de leur histoire. L'Église ne doit pas agir de la sorte. La deuxième étape que nous avons remarquée en travaillant avec les Églises est celle de la peur. Les gens voudraient faire quelque chose, mais ils craignent d'attraper le SIDA en s'occupant des personnes atteintes par la maladie. La troisième étape observée est celle de l'ignorance. Ils veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas comment y s'y prendre. De nombreux pasteurs ont fréquenté des écoles bibliques qui n'offraient pas de formation sur le VIH. Les conseils que l'on doit donner à une personne atteinte par le VIH n'ont rien à voir avec le genre de conseils que l'on donne à propos du mariage ou de la vie spirituelle. Ils ne savent pas comment répondre. Enfin, la quatrième étape par laquelle nous voulons vraiment qu'ils passent, c'est d'accepter les personnes qui ont le SIDA, de marcher avec elles et les accompagner comme Jésus le ferait, c'est-à-dire sans aucun mépris ou stigmatisation.
Des comparaisons ont été faites entre la pandémie actuelle du SIDA et la maladie de la lèpre, vue dans les évangiles. Dans Marc chapitre 1, les versets 40 à 42, il est écrit:
un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit: oui, je le veux, sois pur. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur.
Ce que nous devons retenir de ces versets, c'est la compassion de Jésus pour l'homme qui avait la maladie de la lèpre.
À cette époque-là, et jusqu'à très récemment, les infections comme la lèpre impliquaient une rupture avec sa communauté et un isolement physique, social et spirituel.
Cela n'a pas empêché Jésus de guérir cet homme et de le rendre pur. Ce miracle nous rappelle que le salut en Christ est efficace et total. Jésus est venu pour assumer toutes les conséquences de la chute, et ce miracle est un avant-goût des nouveaux cieux et de la nouvelle terre.
Mais cela nous lance aussi le défi d'agir comme Jésus dans nos relations avec ceux qui se trouvent en marge de la société à cause de maladies comme la lèpre ou le sida.
Comme l'exprime le pasteur Edward Simiyu, l'Église ne devrait pas fuir ceux qui auraient contracté le sida à cause de leur immoralité sexuelle.
L'Église est-elle un club pour les gens sans péché? Non. L'Église est un lieu pour les pécheurs qui ont été sauvés par grâce. L'Église est un lieu où les pécheurs peuvent aller pour chercher refuge. Si nous les rejetons, où trouveront-ils refuge? Où trouveront-ils le salut sinon dans l'Église? Au lieu de stigmatiser les personnes touchées par le sida, l'Église devrait être engagée en première ligne du combat contre le sida.
Édouard Simiyu nous explique que lorsque l'Église est confrontée à ceux qui sont malades et qui souffrent du sida, elle leur pose parfois trop de questions au lieu de simplement les soutenir et de prendre soin d'eux.
nous avons tendance à oublier que Dieu seul est juge. Des gens peuvent souffrir des conséquences du péché, mais cependant vivre le pardon de Dieu. Ils ont peut-être contracté le sida à cause de leur immoralité sexuelle, et la maladie est dans ce cas-là la conséquence de leur péché. Cependant, cela ne signifie pas que cette personne, si elle a demandé le pardon de Dieu, ne l'a pas reçu. Non, car Dieu accorde son pardon à qui le lui demande. Nous n'avons pas le droit de juger des gens, ni les condamner si Dieu lui-même les a pardonnés. Nous devons plutôt inciter ces personnes à rechercher le pardon s'ils ont péché. Nous devons encourager les gens à faire le test de VIH. Et s'il s'avère positif, nous devons également les accompagner spirituellement lors de cette étape douloureuse. À ce stade, certains envisagent le suicide. Nous devons être là en tant qu'Église pour les aider dans cette épreuve et les porter jusqu'à ce qu'ils deviennent assez forts pour eux-mêmes encourager d'autres.
Nous voulons comprendre ce que ressentent les gens qui vivent avec le VIH ou le sida.
Certains disent que la stigmatisation est pire que la maladie en elle-même.
Écoutons Susie Howe, directrice d'une association africaine engagée dans le soutien de projets liés au VIH et au sida.
Si je leur demande quelle est leur plus grande difficulté, ils me répondent que c'est la peur d'être chassés de leur foyer ou la peur qu'on mette le feu à leur maison. J'ai rencontré des familles dont les enfants avaient été rejetés de leur école, non pas parce qu'ils étaient séropositifs, mais parce que des membres de leur famille l'étaient. Alors, c'est pourquoi il est extrêmement important que l'Église comprenne bien cette maladie, car ainsi elle pourra chasser les fausses idées reçues à son sujet. Dissiper les mythes pour alors à la place apprendre les réalités du problème est un moyen d'affaiblir le pouvoir de la stigmatisation, car on finit par réaliser qu'il n'y a rien à craindre. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en faisant cela, on libère ceux qui sont captifs de leur peur, de la stigmatisation, de leur solitude, et nous les emmenons au cœur de la famille de l'Église. C'est ainsi que nous voyons le royaume de Dieu s'étendre ici sur la terre, non pas en théorie, mais dans les faits et de manière concrète.
Nous voulons vous raconter le témoignage d'une femme rwandaise. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Gloria.
Gloria a été chassée de son foyer parce que son mari est mort du sida et que l'on l'a accusé de l'avoir tué en pratiquant la sorcellerie.
Gloria est partie du nord du Rwanda avec ses 5 enfants en direction de Kigali, la capitale. Là, elle a trouvé un abri, une niche de chien sans toit.
Bien qu'elle soit toujours restée fidèle à son mari, Gloria a découvert par la suite qu'elle était atteinte du sida. Susie Howe nous relate la suite de son histoire.
Elle était complètement désespérée. Elle a commencé à tomber malade, mais elle n'osait le dire à personne à cause de ce qu'elle avait déjà souffert de la part de sa famille.
L'association Apricom, basée à Kigali, travaille parmi les familles touchées par le sida. Elle a entendu parler de la situation de Gloria et elle a agi.
Cette pauvre femme et ses 5 enfants menaient une vie plus insalubre que celle d'un chien. Gloria, exposée aux éléments naturels, à la pluie, au vent et à la poussière, tombait de plus en plus malade. Elle était apeurée et accablée de culpabilité. Elle se demandait « Qu'ai-je fait? Que deviendra ma famille ?»
Grâce à l'aide d'Apricom, Gloria a aujourd'hui un endroit où vivre.
Et sa santé s'est améliorée, car elle pouvait prendre des médicaments antirétroviraux.
L'église locale s'est également impliquée. La mère est devenue chrétienne ainsi que ses 5 enfants. Et voici ce que la fille aînée a déclaré. « Avant, je ne savais pas à quoi ressemblait Dieu. Je ne savais pas comment il était. Mais maintenant, j'ai fait sa connaissance et je suis tellement reconnaissante. Je l'aime tellement. »
Le travail lié au VIH et au sida est très pratique en soi. Mais il ne faut pas oublier son côté spirituel. Joséphine Muniwoki de Faraja à Nairobi, nous oriente vers les paroles que l'apôtre Paul a écrites en 2 Corinthiens chapitre 4.
Au verset 16, il est écrit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore, peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. » Ce verset décrit bien la condition des personnes qui vivent avec le sida, car leur santé se dégrade peu à peu. Vous pouvez saisir toute occasion pour encourager la personne atteinte du sida et dont le corps se détériore. Vous avez l'opportunité de l'aider à être renouvelé intérieurement. Paul ajoute, « En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne demeurent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. L'Église a l'opportunité d'aider les personnes mourantes du sida à bien se préparer à leur rencontre avec le Créateur.
L'Église s'implique dans l'évangélisation, mais elle ne peut pas sélectionner ceux à qui elle annonce la bonne nouvelle. Nous retrouvons Édouard Simieu.
Quand vous évangélisez, vous ne pouvez pas faire le tri entre ceux qui ont le sida et ceux qui ne l'ont pas. Vous ne pouvez pas leur dire « Vous avez le sida, alors ne venez pas à l'église. » Ou alors « Vous ne pouvez pas donner votre vie au Seigneur parce que vous avez le sida. » Quand nous sortons pour évangéliser, nous devons aller vers tout le monde. Voilà notre mission.
Pour finir, Édouard Simieu affirme que l'Église a un devoir envers la société qui consiste à parler des questions morales, chose que les gouvernements séculiers ne peuvent pas faire.
Quand on entend les débats qui sont lancés à propos des principes de base tels que l'abstinence, la fidélité et l'utilisation de préservatifs, nous constatons que le gouvernement a du mal à exprimer sa vision des choses. Il n'a pas un statut moral lui permettant de trancher ce débat, car la société s'attend à ce qu'il reste moralement neutre. En revanche, l'Église peut prendre clairement position car son statut moral est fondé sur les enseignements de la Bible. Elle peut dire aux gens comment se conduire.
Pour conclure notre émission aujourd'hui, je rappelle que la réponse de l'Église face au VIH et au SIDA doit être dépouillé de toute stigmatisation et de toute attitude de jugement. L'Église peut saisir les opportunités de partager l'Évangile avec ceux qui souffrent et ceux qui sont en train de mourir.
Notre temps est écoulé. Nous continuerons notre série spéciale sur le VIH et le SIDA la prochaine fois. Nous remercions tous ceux qui ont participé à notre émission et en attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.